Cet épisode de La Teille a été enregistré avant le confinement. C'est pourquoi il n'aborde pas l'actualité du moment. Dans cet épisode, on y aborde des sujets sensibles tels que les troubles mentaux, la dépression, les drogues ou le suicide. On prévient donc nos auditeurs pour qui ces sujets peuvent déclencher le rappel d'un traumatisme. Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans La Teille. La Teille, ça veut dire le thé en arabe. La Teille, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Teille, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonsoir à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Teille. Je suis super contente de vous retrouver au micro et aujourd'hui je suis accompagnée de Kauter. Comment ça va Kauter?
Attends, je suis en train de me vernir les ongles.
Sid, comment tu vas?
Tout est bon.
Amel?
Ça va très bien.
Théophile?
Ça va, ça va.
Eh, je suis désolée, mais le début on dirait toujours on est sur Skyrock.
Kauter, elle est en train de faire son vernis à ongles pendant qu'on est en train d'enregistrer.
C'est un rose nude, très joli. Ouais.
Envoyez de l'aide, je répète, envoyez de l'aide.
Des masques d'oxygène, please.
Je vous échelle.
Aujourd'hui.
Je me sens pas visée.
Le mot-clé du jour, c'est santé mentale ou mental health, comme on le voit plus souvent sur les réseaux sociaux. Comme les gens adorent parler anglais en ce moment. Mais en vrai, on le voit aussi souvent en anglais parce que j'ai l'impression qu'on est super en retard sur ces questions en France et que c'est un concept qui est très à la mode en ce moment, très américain et qui est aussi très marketé maintenant. Genre, on te fait croire que ta santé mentale ira mieux en achetant des masques et des produits de cosmétiques.
Ou en faisant du yoga.
Kauter, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la santé mentale?
Alors, avant de vous donner ma définition perso, je tenais à vous donner une définition assez objective. Et du coup, ma source, là, c'est le Wikipédia. Et ils disent que la santé mentale définit le bien-être psychique, émotionnel et cognitif ou une absence de trouble mental. Le terme est relativement récent et... Ok, en fait, il casse les couilles. Alors... à mes yeux, la santé mentale... En fait, vous voyez, on a la santé physique. Genre, quand on a, je sais pas moi, une angine ou quoi, on va chez le médecin et on se soigne. En général, on prend pas ça à la légère, quoi, tu vois. Genre, t'es mal, tu vas chez le médecin, tu vas à l'hôpital, tu vas chez un spécialiste. Et en fait, la santé mentale, c'est... vu que c'est pas physique, on a un peu plus de mal avec ça. On a plus de mal à... déjà à voir les choses en face et à se dire ok, là je vais pas bien mentalement, faut que j'aille voir un professionnel de santé. Et puis même, pour être honnête, en France, moi j'ai vu pas mal de psy, j'ai toujours été déçue par l'accueil qu'ils me faisaient, et à chaque fois j'allais chez le psy, je disais ce qui me rendait mal, il reformulait la phrase. Il faisait, et à chaque fois que je parlais, il faisait un. Et on dirait c'est tout le monde est allé à la même fac, ça m'a dégoûté. Bref, du coup, la santé mentale, en fait, c'est difficile de parler de santé mentale. Je connais les maladies mentales, mais la santé mentale, j'ai l'impression que c'est tellement rare de nos jours d'être en bonne santé mentale que je sais pas trop la définir.
En vrai, je pense aussi qu'on a plein de problèmes. Quand on pense santé mentale, on va penser dépression, mais tu vois, on va pas penser par exemple au trouble alimentaire.
C'est vrai.
On va pas penser aux troubles de l'attention.
Aux troubles anxieux.
Ouais.
Et TOC.
Pour nous, c'était important d'en parler aussi parce que je pense qu'on a un traitement de ces maladies mentales qui est hyper particulier dans nos communautés.
Ouais.
Je pense qu'on a tous eu ce truc où on était dans un épisode de déprime et où nos parents nous ont dit « Non mais t'as qu'à aller prier ». ça ira mieux.
Ouais. D'ailleurs, bah, dernièrement, j'ai dit à ma mère que j'étais hypersensible. Elle m'a dit, ouais, mais regarde, rapproche-toi de la religion et tout, ça se passera mieux, etc., etc. Moi, je le nie pas, hein, je trouve que ça me fait du bien, ça me permet de me recentrer quand je prie et tout. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et genre, la réflexion de ma mère ne m'a pas suffi, et la réflexion de la psychologie occidentale ne me suffit pas non plus, parce que il se base sur la psychanalyse de Freud, tu vois. Donc c'est le moi, le surmoi et le ça, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Et en fait, moi, j'ai lu un livre sur les maladies psychologiques qui a été écrit par un médecin arabo-musulman, mais qui pratique en France. Et en fait, il prenait en compte aussi tout l'aspect spirituel et la foi, en fait. Et du coup, ce livre m'a énormément aidé.
Par rapport à l'apport de la religion qui est, que tu ne nies pas. En fait, par exemple, le ramadan, tu vois, ça nous préserve de beaucoup de maladies physiques, pas mentales, tu vois. Mais c'est pas pour autant que si j'ai une grippe, je vais pas juste jeûner, je vais quand même aller voir un médecin. Et donc, dans le sens de ce qu'on dit, même si prier, ça peut m'aider à me soigner, des fois, il y a des moments où il faut quand même l'aide d'un professionnel, comme on dit, quoi.
D'ailleurs, tu parlais du ramadan. Moi, l'an dernier, j'ai passé mon premier ramadan toute seule, et en plus, j'étais en dépression. Ça veut dire que sur le mois du ramadan, j'ai dû réussir à jeûner, vas-y, une semaine max. Et en plus de... en fait, moi, j'arrivais pas à me dire que parce que je suis dépressive, je vais pas réussir à jeûner, tu vois. Du coup, je suis partie voir le médecin, un médecin traitant, parce que j'avais des maux de tête. Genre, je pensais que j'étais anémique et tout, tu vois. Et le médecin, il trouve rien, rien pendant la prise de sang et tout. Et c'est juste après que je me suis rendu compte que la dépression, même si ça, c'est pas physique, ça a
des
conséquences,
des impacts,
ouais, hein. Des conséquences physiques au point où tu peux pas jeûner une journée, quoi. Genre vraiment, j'essayais, mais en plus j'étais au taf et j'arrivais pas. Genre j'avais super mal à la tête, genre une migraine de ouf.
C'est comme si on n'avait pas le temps de se soigner mentalement, genre.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on ne prend pas assez au sérieux, en vrai.
Dans la culture populaire, les maladies mentales, elles sont vachement vues comme le fou. Genre vraiment le mec qui pète un câble, il se prend pour Jésus, le schizophrène, ou le tueur en série. Dans les films, c'est Split, le mec avec toutes les personnalités. Ouais. Tu vois, c'est un carnet d'adresse dans son cerveau.
Dexter.
Et voilà, ou Dexter, tu vois. Et t'as pas, genre, la maladie mentale de tous les jours, celle qui fait que tu peux pas te lever.
Alors celle-ci, mais alors, elle est associée à la fragilité.
Elle est associée à la fragilité, c'est moins dans le spectaculaire.
Ouais.
Et du coup, c'est moins dans les séries, c'est moins dans les sitcoms. Moi j'ai fait de l'hôpital psychiatrique il y a quelques temps. Bah des fois les gens qui s'y retrouvent, c'est d'une banalité effarante, pas dans les symptômes qu'ils ont parce que c'est très grave, mais dans leur traitement par la société. On ne voit pas du tout ce qu'on pense voir. Et des fois, t'es obligé d'admettre que quelqu'un qui sort plus de chez lui pendant 6 mois, vraiment voit personne, ne peut sortir, ne peut prendre soin de lui, ne peut trouver du taf, ne peut en chercher même, y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et il y a aussi tout le regard qu'on reçoit des gens qui sont extérieurs à notre famille. Et souvent, c'est pourquoi tu te sors pas du cul, sors de ton lit. Et puis... fais des choses, c'est simple.
Va faire du sport.
Voilà.
Écoute de la musique.
Fais du yoga dans le parc avec les vieux qui font du tai chi.
Ouais.
Alors qu'en fait, des fois, c'est aussi genre, en fait, t'as des problèmes. Y a des médocs pour ça. Ça va être long, ça va être chiant, ce sera probablement toute ta vie. Mais
après, autre chose, la consommation d'antidépresseurs et d'autres médicaments de ce type-là en France est vraiment trop élevée.
Des fois c'est triste, effarant et super banal que de voir qu'en fait t'en parles un peu autour de toi, et puis en fait t'as un pote qui dit mais moi aussi en fait quand je rentre chez moi le soir je suis sur mon lit et en fait je bade comme un connard pendant 3 heures et j'arrive pas à faire ça, même si j'envoie des smileys sur Messenger, en fait ça juste pas du tout. Et là tu te dis en fait je suis pas seul, mais en fait juste on n'arrive pas à en parler. Et petite référence à tout ce qui est masculinité, petite référence à un paquet de trucs de ce dont on a parlé auparavant, mais ouais, en fait, c'est vachement là. Et des fois, je suis sur Insta et du coup, je suis le compte de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et ils aiment bien poster des petits clips de ce qui se filmait il y a 50 ans ou 40 ans. Quand ils demandent aux gamins.
L'apostrophe.
Ouais. Ouais.
Pardon.
Ouais. Pas encore notre Lina.
Ouais.
Et ils demandent aux gosses, ouais, qu'est-ce que vous voyez l'avenir? Alors, c'est des gamins qui voient un peu la fin de la guerre froide arriver ou qui en sortent juste, tu vois. Ils disent, bah, moi, l'avenir, je vois les voitures qui volent, je vois la paix, je vois, tu vois, tout le monde est ouais. content. Et maintenant, c'est quoi notre avenir à nous? C'est la troisième guerre mondiale, c'est.
Burnout
sur burnout, il n'y a plus de démocratie, c'est les fake news, tu peux plus croire ce que tu vois. Et en fait, toutes les marques, elles te mentent et surtout, elles veulent que t'achètes. Et ouais, en gros, c'est pas, ça sort pas de nulle part.
Ouais.
Ça sort pas de nulle part. Vraiment, on vit des temps qui sont difficiles. Certes, on va pas à la guerre, mais on sait très bien ce qui va se passer, ce qui se passe juste avant la guerre. Hein.
Ouais.
Parce que, pareil, les années 20, en 1920, c'était top délire. Tout le monde était en train de faire la teuf, c'était les Roaring Twenties, tu vois. Vraiment, genre, tout le monde avait la coke plein le nez et tout, et c'était kiffant. Et pas, c'est la merde juste après. Donc je pense qu'on a aussi le poids de l'histoire parce qu'on sait que même si on peut kiffer notre vie genre de façon matérielle, ça peut très très vite tomber. Et c'est je pense pour ça aussi qu'un paquet de gens vont super mal. D'une, c'est parce qu'on n'est pas bien encadré en termes de santé mentale, on n'est pas bien conseillé, guidé et accueilli. Et aussi parce qu'on sait que l'avenir, il n'est pas très très glorieux pour nous.
Amel, t'as rien à dire?
Ah non, si, j'ai plein de choses à dire, mais là, je sais pas trop comment les ramener, tu vois.
Tu veux dire quoi?
Non, mais c'est plus par rapport à la famille, au traitement des parents, et t'en as parlé, genre va prier, et puis tout ira mieux.
En vrai, je suis persuadée qu'ils disent ça parce qu'ils savent pas quoi dire d'autre pour nous aider, tu vois. Je tenais juste à spécifier ça, parce que...
C'est pas souvent, de la mauvaise intention, ouais.
Ouais, souvent, je vois sur Twitter, je dis ça à ma mère, et elle me dit va prier et tout, et elle parle super mal de sa daronne, genre j'en vois plein des meufs comme ça tweeter. En général, c'est des meufs. Mais... Faut se rappeler que nos parents ils ont pas eu la chance d'être déconstruits comme notre génération peut l'être en fait.
C'est juste que je voulais préciser pour te lancer pour te lancer Amel, c'est que genre je prends mon exemple particulier, il y a plein de trucs qui quand par hasard, par la force des choses, par pétage de câble, j'arrive à parler de certains détails de ma situation de tous les jours, on me dit wesh mais gros c'est pas normal. Je dis ouais mais non, je peux pas me plaindre. Mes parents ont vécu pire, tu vois.
Ouais,
par comparaison, j'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui parce que autour de moi on a vécu pire et donc c'est peut-être l'un des freins qui empêche la communication à ce niveau-là.
Mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, genre c'est une hypothèse personnelle, mais tu vois, notre époque elle est pas pire qu'une autre, je trouve, franchement, dans son ensemble. On n'est pas des gens à plaindre, tu vois, sur le papier. Mais peut-être que nos ressentis, nos sensations, genre, il nous arrive des trucs et on les perçoit peut-être 5 fois plus fort que nos ancêtres. Genre, je me dis ça. Genre, peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, peut-être qu'à cause de... En fait, peut-être qu'à cause de notre environnement actuel, peut-être qu'on... Ouais, qu'on réfléchit plus pareil et qu'on ressent plus pareil et que ça nous atteint plus et que du coup, on a plus tendance à être malade et c'est ce qui explique tous ces... Bah, déjà ça explique tous ces malades et en plus ça explique aussi le fait qu'on prenne un peu plus au sérieux, genre le débat s'ouvre dans le public sur tout ce qui est maladie mentale, etc. Voilà.
Bah, tout va beaucoup plus vite, on a beaucoup moins de temps de penser, enfin on ressent plus ce qu'on pense, j'ai l'impression, en fait, genre avec toutes les images, enfin tout, les infos, tous les BFM TV et tout, enfin. On m'avait dit une fois que l'être humain, il n'est pas fait pour recevoir autant d'informations en aussi peu de temps, en fait. Normalement, tu vois, t'es dans ta petite ville et tout, t'as ton petit boulot, t'as ta petite famille, et c'est beaucoup plus lent, tu vois, alors que là, c'est la course de ouf.
Fast life.
De ouf, et c'est pas du tout bon pour nous, tu vois, on est la première génération à vivre ça. Clairement, le corps, il n'a pas eu le temps d'évoluer autant, tu vois.
Je pense.
Autant que notre société. Et du coup, moi, en fait, je voulais aussi parler de tout ce truc de l'excellence et du fait que t'as pas le droit de te plaindre. En gros, moi, dans ma famille, du coup, j'ai parlé de moi personnellement. Mes parents, enfin surtout mon père, il a vécu plein de choses et tout. Et tout ce qui est mental, genre, tu le gardes pour toi.
Mm.
T'as pas, enfin, c'est pas que t'as pas à t'exprimer, mais pour lui, t'as même pas à ressentir ça.
Mais tu après... es là, tu bosses, tu fais du bon travail et c'est tout.
Mais après, c'est peut-être parce que quand tu vis des épreuves, enfin moi aussi j'en ai vécu quelques-unes et ma mère, pareil, Meskina, elle en a vécu énormément. Mais je trouve qu'en fait, quand t'es face à ce type d'épreuves vraiment critiques, t'as un système d'autodéfense qui se lève dans ton cerveau et en fait, tu laisses plus passer aucune émotion qui ne te servira pas et t'es juste en mode survie. Et je pense que nos parents, en fait, ils ont toujours été en ce mode survie, tu vois. Et genre, aujourd'hui, ma mère, bah tu vois, elle est à l'abri et tout. Désolée. Genre, alhamdoulilah. Genre, maintenant, elle se pose un peu plus des questions sur... sur ce qui est autre chose que la santé physique, tu vois. Et je pense que c'est parce qu'elle a moins d'épreuves à passer et qu'elle peut prendre le temps de réfléchir sur ça, tu vois. Et nos parents ont eu leur vie et nous on a la nôtre et faut bien différencier ça et quand ça va mal faut en parler. Moi j'ai mis beaucoup de temps à parler de ma dépression à ma mère, genre j'ai dû lui en parler en mars quand c'était vraiment critique et que j'ai voulu quitter ma formation. Je lui ai dit écoute maman, je lui ai vraiment expliqué ça avec des choses simples et tout et je pensais pas qu'elle allait
sérieux?
Ouais, je pensais pas qu'elle allait comprendre. Mais elle l'a compris et elle a suivi, genre elle a dit écoute si t'es sûre de vouloir arrêter ta formation, genre même si elle m'a poussée tu vois à finir au moins l'année, je lui ai dit non maman genre je t'assure je peux plus et je dois quitter cette formation et tout, et elle l'a compris tu vois, et ça me fait plaisir de l'avoir évolué parce que c'est pas juste sur ce plan là, c'est aussi sur d'autres plans et j'ai l'impression que j'ai une influence sur elle là dessus influence bénéfique du coup, enfin j'espère. Et je sais même plus pourquoi je disais ça, mais juste nos parents ont tendance à être pas conciliants, ils écoutent pas, etc. Mais je pense que il leur faut du temps pour digérer toutes les informations qui viennent de se choper, tu vois. Ouais.
Le problème, c'est qu'on est dans une société où ces questions sont tellement nouvelles que à part Freud et à part les psychanalystes, il n'y a pas de solution encore pour l'instant. Si ce n'est des trucs genre méditation. Mais genre, en fait, tu vois, c'est des choses où on n'a pas un médicament magique en mode, tu vois, comme t'as mal au dos, tu prends du Doliprane et voilà, tu vois, ça passe. Genre, enfin, il n'y a pas de truc comme ça.
C'est un mensonge, ça ne passe pas. Genre, vraiment, les douleurs de dos, il n'y a pas pire que ça. Mais en vrai, moi, ce que je voulais dire, c'est que le livre dont je parlais tout à l'heure, genre, c'est un praticien qui pratique, tu vois, en clinique et tout. Et la solution, elle est là. Elle est vers une réactualisation de toute la théorie psychanalyste, voilà. Tu vois. Genre... Enfin, je comprends pas. Sous prétexte qu'en Occident, la plupart des scientifiques sont athées, la science doit être athée aussi. Je suis pas d'accord. Genre... Enfin, ok, d'accord. Si tu veux baser ta théorie juste sur des faits, des choses concrètes, des faits physiques, ok. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre... Faut garder à l'esprit que certains dans une population ont des croyances qui ont un impact sur leur vie, sur leur mode de vie, et je trouve ça grave, égoïste et juste tout simplement stupide qu'on prenne pas en compte ce paramètre qui est quand même, je trouve, assez important dans la vie du patient, tu vois.
Il y a des médecins qui sont méprisants en fait envers la religion.
Ah mais oui.
Genre ah mais ça va te regarder de haut, mais en fait là on est dans un espace médical, tu parles pas de Dieu en fait. Genre, tu parles de tes problèmes mais pas de Dieu.
Moi
pas
franchement, ta foi. J'ai jamais osé parler librement de ma foi avec
des gens qui en ont parlé, ils se sont fait rembarrer direct. Mais ouais, du coup pour terminer ce que je voulais dire, en fait dans ma famille du coup, on est très dans on m'a éduquée d'une telle manière à ce que je sois très dans la défensive. Genre, je peux pas vraiment parler de ce qui se passe dans ma tête si je suis en dépression ou quoi. Parce que du coup, j'ai eu un épisode dépressif
ouais.
Au collège. Et clairement, j'en ai parlé à aucun membre de ma famille. Personne ne sait. Il y a que quelques potes. Et du coup, vous, maintenant. Mais
tous les auditeurs.
Ouais.
C'est la famille.
Mais je crois que c'est ce qu'elle a voulu lui dire par vous.
Ouais, vous, tout le monde, quoi. Et clairement, bah, je l'ai mal vécu, mais à cause de du coup, cette éducation, bah, je me suis minimisée seule. Et c'est en grandissant que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'étais en dépression à ce moment-là, je ne me suis même pas rendu compte. Et j'étais là, je me flagellais. Genre, je me disais, ouais, mais attends, mais tout va bien dans ta vie, pourquoi tu te sens comme ça? Genre, t'as pas à te sentir comme ça, ta mère, elle a vécu ça, ton père, il a vécu ça, tes cousins vivent ça, tes potes vivent ça. Et toi, t'es là, tu déprimes. T'as pas à faire ça, tu vois.
De la culpabilité.
Ouais, j'ai fait un compte PV il y a pas longtemps, mais du coup, parce que en fait, j'arrivais juste pas à en parler et à extérioriser, même avec mes potes. Et du coup, genre, en fait, ça m'était mal à l'aise d'attendre une réponse de quelqu'un. Genre, je sais que personne m'aidera, du coup, c'est bizarre. Du coup, c'est bizarre, en fait, de là, de parler de mes problèmes, je trouve ça un peu... Genre, j'aime bien quand on en parle, mais moi, en parler, j'avais un blocage. Et du coup, c'est Sharan, ma copine, qui est venue du coup au photo et à la projection.
On lui passe le salam.
On lui passe le salam. C'est elle qui m'a dit, genre, elle parlait de sa vie et un jour comme ça, elle m'arrête et elle me dit, mais en fait, toi, ça va?
Ouais.
Et t'es en mode, hein? Et elle m'a dit, ouais, mais on est là, ça fait un moment qu'on se connaît, mais tu me parles jamais de tes problèmes et tout. Ou bien tu vas en parler vite fait, petite blague, et c'est bon, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, attends, merde, c'est bizarre, en fait. Peut-être c'est à cause de ça que ça se passe mal et tout dans ma tête. Et du coup, j'ai fait un compte PV. Et même avec ça, j'ai un peu du mal. C'est un peu bizarre.
Ça va prendre du temps.
Ouais, non, j'ai du mal à... Je pense qu'il faut plus qu'un compte Twitter privé. Je pense que... J'aimerais juste m'adresser aux auditeurs. Parce que j'en vois certains qui se noient dans des tweets en mode... Ouais, je vais pas bien, etc. Genre, en fait, ils se servent de Twitter un peu comme un défouloir. Et parfois, ça suffit pas. Genre, parfois, vous êtes vraiment malade et parfois, faut juste aller consulter, en fait.
Bah.
Voilà, c'est juste pour vous dire.
Bien sûr.
Genre, si vous sentez que vous défoulez sur Twitter, sur votre compte privé, ça vous suffit comme Amel. Genre,
ça me suffit pas du tout.
Genre,
moi, ça me suffit en l'occurrence.
Ouais, voilà, Lina, ça lui suffit parce que bah, son état mental est. Lui permet, tu vois, mais la plupart du temps, quand je vois beaucoup de gens exprimer leur mal-être tout simplement sur les réseaux sociaux, c'est pas la bonne chose à faire. Avant même de parler à autrui, faut que tu te parles à toi-même, hein. Faut que tu te dises, mais là, si t'extériorises pas, en fait, tu vas tout le temps être dans un mal-être, tu vas être sous pression. À un moment, genre vers tes 30-40 ans, tu vas péter un câble. Donc il vaut mieux que... En fait, tu vois, genre j'ai l'impression que tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on pense, genre c'est un flot d'eau, genre un fleuve, ouais. Et que genre t'as un barrage et toi il est complètement fermé et si tu le laisses, bah ça va, genre la pression derrière elle va augmenter jusqu'à exploser, tu vois. Ouais. Donc faut que tu gères ce flux d'eau. Voilà.
Et parler, c'est important pour nos auditeurs auditrices qui sont encore étudiants et étudiantes en région parisienne. La Croix-Rouge, elle a un établissement qui s'appelle le BAPU. C'est le Bureau d'aide psychologique universitaire. C'est à Luxembourg, le RERB. C'est gratos. Enfin, c'est remboursé pleinement par la Sécu. Vous lâchez aucune thune. Et il y a des psychologues, pas des psychiatres, des psychologues qui sont là, qui vous prennent une fois par semaine.
Tu peux dire la différence entre psychologue et psychiatre? Je pense que tu la connais peut-être, non?
Ouais, bien sûr. Alors, psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie à la fac, il y a des spécialisations après, genre neuropsycho, mais bref, c'est un truc universitaire, mais qui n'est pas médical, ou du moins il y a une grosse théorie derrière, mais ça n'outre pas le statut de médecin. Mm-hmm. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui va se renseigner, qui va apprendre les fonctionnements du cerveau.
Qui a fait des études de médecine. Et qui, du coup, a une
formation de médecine et du coup, qui est habilité à donner des ordonnances pour des produits.
J'ai dit amabilité.
Amabilité.
Les psychiatres, quand ils opèrent en hôpital, ils font aussi de la recherche sur le cerveau. Bah, voilà, c'est vraiment un docteur. Et du coup, les psychanalystes, ce sont des gens qui ont fait des études dont tout le domaine se base sur la théorie de Freud et de Jung, plus Jung en France. Sur le comportement, sur tes désirs refoulés, sur un plein de trucs. Il y en a qui vont dire que ça complète bien la psychologie et tout, il y en a qui vont dire que c'est des charlatans. Et donc voilà, donc il y a des psychologues qui vont vous écouter au BAPU. J'en ai bénéficié hein, quand j'étais étudiant, c'est très important de vous dire que je suis aussi passé par là. J'ai fait de l'hôpital psychiatrique, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai fait un burn-out, c'était vraiment dégueulasse. Mais il y a des moyens de s'en sortir. Parce que vous me voyez là, je suis jeune, beau, je viens de m'acheter un appart, je suis le golden boy de la bande. Mais en vrai, Mais en vrai, j'ai eu des moments genre vraiment, vraiment sombres. Et il y a des moyens de s'en sortir. Ils sont pas forcément dans la famille parce que la famille comprend pas tout. Mmh. C'est pas forcément les potes de ton enfance parce que ben vous avez vos relations et tout, et que c'est pas forcément. Mais il y a des pros, il y a des professionnels, il y a des hôpitaux publics qui sont là pour vous aider. Et c'est pas une honte. Et en vrai, je connais beaucoup de gens dont un des parents s'est suicidé tragiquement à 50 ans parce que maladie mentale pendant plus de 30 ans. Et en fait, comme t'es le daron de ta famille, tu peux pas être faible, tu peux pas montrer ta faiblesse, t'as pas le droit de dire à ta famille ben voilà, je vais mal, comprenez-moi. Non, faut que tu t'avales le truc et tu continues. Et je sais que, enfin, moi, mon père, il m'a vachement dit. Ben moi j'allais mal, mais en même temps j'avais 20 ans, j'étais catapulté en France par mes parents, j'avais pas de taf, pas de famille, ben j'ai juste avalé le truc et j'ai continué. Et là tu dis bah ouais c'est vrai, mais en même temps on n'a pas la même enfance, t'es plus en mode survie et t'as survécu. Et c'est vrai, mon père c'est un survivant, c'est un gros survivant, mais moi je suis pas comme lui. Et du coup quand t'as plus à survivre, qu'est-ce qui t'arrive? Ben il t'arrive d'autres trucs.
Tu te retrouves seul avec toi-même et tes pensées, c'est voilà. Difficile à gérer.
T'es plus en mode hustling, tu te lèves le matin à 6h, tu fais les marchés, ensuite tu te formes, et ensuite tu bosses le soir tard dans un resto, et ensuite tu te couches et c'est que ça toute la semaine. Ben non, t'es là avec tes pensées, tu te dis putain de merde.
Il faut les assumer.
Je voulais
aborder un tout petit point avant le gros thème que je voulais lancer. Un tout petit point, c'est qu'on est une génération unique. On est la première à grandir avec des bases aussi floues que celles qu'on a aujourd'hui, d'identité, de société, d'appartenance. On a des conflits qu'il n'y avait pas avant nous, donc on ne peut pas compter sur nos anciens pour tout comprendre et tout régler.
Ouais.
Et je pense que mine de rien, des projets comme le nôtre, comme le chip, des projets qui répondent à ces problèmes qu'on est les seuls à connaître, ça fait un taf colossal parce que ça te crée un groupe, et je pense que c'est les membres de ce groupe qui vont pouvoir se comprendre et donc du coup créer des solutions qui n'appartiennent qu'à nous. Je voulais un message à nos auditeurs et surtout à nos gars. Alors, faut parler. Faut dépasser cette manière-là. Et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui, en écoutant ma phrase, vont me traiter, vont m'envoyer un message, vont me dire tu te fous de la gueule du monde, parce que moi-même, c'est l'ultra majorité du temps au-dessus de mes forces. Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens que j'aime, des gens que j'affectionne tout particulièrement, qui me reprochent ce manque de communication, parce que du coup, ça crée toute une distorsion entre ce que je pense et l'image que je dégage autour de moi. Ouais. Nouveau check entre Amel et moi. et c'est nuisible, ça vous fait perdre du temps. Et si ça vous fait pas perdre du temps sur l'immédiat, ça vous rattrapera à un moment. Il y a pas si longtemps que ça. comment dire
C'est émotionnel comme
ouais. Sortez les mouchoirs.
Il y a un moment familial. Mon père a eu une formation de management du changement. Et il a compris que peut-être engager des discussions de changement et tout.
Juste, t'es pas obligé d'en parler.
Si, t'inquiète. Okay. T'inquiète. T'inquiète. Il faut que ça sorte. Et ça va aider beaucoup de monde. En gros, on a eu une discussion familiale. Je sais pas pourquoi je vais dans le détail. On a eu une discussion familiale. Et au cours de cette discussion familiale, on a évoqué un peu leurs ressentis de chacun, l'état de chacun. Et ma petite sœur, elle a 1 an de moins que moi. Elle a sorti une phrase de malade. Elle a dit, mon frère, je le connais mieux que personne. On a 1 an de moins, on a vécu ensemble, on a tout fait ensemble et tout. Elle a dit, il est tordu, je sais pas comment il tient debout. Et la, et la preuve, c'est qu'elle a dit, si tu lui demandes si ça va, il pleure. Et j'ai pété les plombs, j'ai chialé comme une merde. Parce que j'ai pris conscience de ça. Genre, en mode, elle savait un truc que j'avais même pas verbalisé dans ma propre tête. Et là, les membres de l'équipe le voient. C'est un détail que je vous donne, les auditeurs. Je suis dans un état tout bizarre, là, quand je vous parle. Si je vous raconte ça, c'est déjà pour certains gars que vous en preniez conscience, qu'on vous demande pas si ça va, ou qu'alors on vous demande par politesse, genre ouais, c'est tranquille ou quoi, c'est pas une question, c'est une formule de politesse. Si un jour quelqu'un vous demande si ça va, soyez prêt à en parler, ça va tout changer. Et du coup, aux gars et aux meufs et à tous ceux qui nous écoutent, en fait, demandez sincèrement à tout le monde autour de vous s'ils vont bien, même à ceux qui montrent de l'assurance ou quoi. Faut demander en toute sincérité, parce que ça va tout changer, ça va tout changer dans vos vies, dans la vie de gens qui vous entourent. Et donc voilà.
Parfois même des fois, dites pas ça va, dites juste comment tu te sens. Rien que cette phrase, je la trouve très beaucoup plus puissante.
C'est très vrai.
Comment tu te sens en ce moment? Je pense que rien que ça fait la différence. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Du coup, j'ai un peu un problème avec tout ce qui est émotion. J'ai du mal à faire preuve d'empathie avec les gens et à me mettre à leur place et à me rendre compte que les gens autour de moi, ils ont aussi des émotions. C'est un travail qu'il faut que je fasse, de faire plus attention aux gens qui sont autour de moi et à mes proches, et de leur demander un peu plus comment tu te sens. Je pense que c'est important pour les personnes qui ont peut-être des problèmes en ce moment, de réussir à s'ouvrir, mais aussi aux personnes qui sont à côté, de faire l'effort d'être une meilleure oreille. Voilà.
Je me permets de rajouter quelque chose avant de te laisser parler, Carter. Il y a beaucoup de gens qui parlent du parallèle de notre monde hyper connecté et à la fois hyper individualiste. Mmh. Et cette demande que je vous fais, ce conseil que Lina vous rajoute, c'est de lutter contre ça, de profiter de toutes les connexions qu'on a pour créer de vraies interactions sociales, et donc du coup de créer des vrais liens d'intimité qui nous permettront d'avancer plus facilement.
C'est ça, parce que ça va, ouais, toi, ça sert à plus rien.
C'est Dogs président 2021, même pas 2022.
Merci beaucoup.
Moi, je tenais pareil, je vais continuer dans la lignée du discours de Sid. Je vais m'adresser aux hommes de notre communauté, et par notre communauté, je veux dire celle de la Tay. Touchez pas au shit. Vraiment, touchez pas au shit. C'est quelque chose qui, sur le long terme, vous fait vraiment vriller mentalement. J'ai plusieurs cas dans ma famille et en fait, c'est juste incroyable à quel point ça peut détruire une vie. Genre... Je vais pas pleurer parce que j'ai du eyeliner.
C'est jamais une solution, en fait. Pour beaucoup...
Ça peut être une solution spontanée, mais... Ouais. Enfin, la rigueur, touchez pas au shit. C'est incroyable l'impact que ça a sur... Enfin, même, genre, je vois des étudiants en stage, en hôpital psychiatrique et tout, et à chaque fois que... Enfin, genre, t'as l'impression qu'un patient sur deux qui a été interné pour schizophrénie ou bipolarité, ça a été parce qu'il a fumé... Enfin, c'est... Une des causes qui l'a poussé dans cette situation, c'est qu'il a fumé du shit pendant plusieurs années. Et en fait, moi, ça me touche. En fait, le shit, ça te met en stand-by, quoi. Genre, tu veux aller profiter de la vie. Genre, quand t'es sous shit, t'as juste envie de profiter de la vie. Donc, tu rigoles, tu danses, tu chantes, plein de trucs comme ça. Et puis en fait, quand t'es dans un mauvais mood, t'es en colère. Tu te réveilles, t'es en colère. Ton cerveau, il fonctionne à 4 fois plus vite. Et du coup, c'est beaucoup d'informations pour ton cerveau. Et du coup, tu pètes un câble et genre ça s'extériorise. Et soit tu tapes dans un mur, soit tu tapes dans une porte. Mais c'est ça, en fait, le quotidien de quelqu'un qui fume du shit pendant des années.
C'est vrai qu'à bien des égards, c'est souvent un pansement sur une plaie ouverte. Ouais. Et en fait, les plaies, elles ont besoin d'air pour se refermer, pour se soigner. Et c'est pas parce qu'on la regarde pas, c'est pas parce qu'on n'y prête pas attention qu'elle se referme toute seule. Aussi bien physiquement que mentalement. Et malheureusement, le physique, on le ressent bien plus fort que le mental. Et surtout, on peut moins nier le fait qu'on pisse le sang. Alors que le mental, on peut juste dire, c'est une mauvaise passe, ça va aller.
Ouais.
Et bien sûr, ouais, c'est important de se soigner.
Tu vois, c'est l'idée de l'immédiat, en fait.
Bien sûr.
De l'invisible. C'est toujours ce même problème de, de faux pragmatisme bête, mais je le vois pas.
Et c'est très facile. Enfin, moi, j'étais plus ou moins super alcoolique quand j'étais en prépa. Et enfin, à chaque fois, c'était le shot de rhum tous les dimanches soirs avant de repartir en internat pour aller bien, mais aller moins pire.
Ouais.
Tu vois.
Tu sais, il y a beaucoup de très bons fêtards qui finissent par être juste de très bons alcooliques.
Ouais.
On a surtout qu'en plus en France il y a une culture très bizarre avec l'alcool ou
avec le shit.
Il y a ce truc
non
de...
mais en vrai avec l'alcool c'est enfin déjà l'alcool c'est légal en France
non mais c'est très bien vu de boire tu vois
ouais.
C'est à dire que tu sais je sais pas si vous voyez il y avait je sais plus c'était un spectacle d'un humoriste anglais qui disait in French we don't say un alcoolique we say un bon vivant.
Ouais. C'est vrai.
Et c'est très ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui genre passent toute leur soirée d'étudiants à boire comme des trous tous les week-ends, voire même toute la semaine, et qui en fait quand tout le monde a fini ses conneries et tout le monde se range et tout le monde part bosser, eux ils continuent en fait à boire jusqu'à arriver. Donc c'est vrai que genre tous ces trucs là c'est des choses qu'on peut pas nier et non tu vois genre le shit encore plus parce que c'est vraiment quelque chose qui touche pour de vrai nos communautés et tu te rends compte que
mais clairement c'est la fierté des rappeurs wesh genre à chaque fois ça parle de shit qui vient du riff et ça fait la fierté de certains riffs aussi
mais c'est le reflet
c'est
de notre société.
Ouais.
Ouais, mais le rap, c'est indécent. Le reflet de la société. Ok, mais c'est indécent, ça reste quand même indécent.
Genre. Ouais, genre en mode là, en gros, faudrait plus dire à nos auditeurs de prendre une distance avec ça. Le fait que le shit, c'est pas cool, on va pas reprocher aux rappeurs d'en parler, c'est un quotidien qui existe.
Non,
tu vois
non,
ce que
non,
je veux dire.
Ouais,
on est tous d'accord là-dessus.
Je dis pas que c'est la faute des rappeurs.
Ouais, ouais.
Je dis juste, t'as raison, c'est le reflet de notre société, mais pour qu'on vienne à faire. L'apologie du shit, on sait même pas il y a quoi dedans. Il y a sûrement de l'acétone, il y a sûrement de l'ammoniaque, il y a sûrement des trucs comme ça, genre que déjà genre regardez, genre là j'étais en train de me vernir les ongles, vous étiez gênés par l'odeur et genre il y en a certains qui fument ça, ça se trouve et ça les dérange pas, ça les fait kiffer. C'est grave dangereux le shit. Et genre pareil, genre moi ce que je dénonce aussi sur l'État français, c'est que il y a pareil, ils font l'apologie de l'alcool et des cigarettes. Genre l'alcool, même si l'État français va mettre en tout petit la mention abusé,
loi E20 aussi.
Bref, genre faut pas abuser de l'alcool, etc., etc. Mais vends pas alors si tu sais que c'est un danger public. Pourquoi tu le vends? Pourquoi tu légalises ça et tu légalises pas la beuh? Genre pareil, le tabac.
C'est des lobbies. Enfin ça, après
oui,
c'est
des lobbies. Bah voilà. Bah moi c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce vis-à-vis de ce gouvernement. Merde. Non vraiment. Genre, je sais que il y a des choses plus acceptables dans les mœurs que d'autres. Et je sais que c'est facile de tomber dedans. Vraiment, je le sais, je le conçois, je juge personne.
Ouais, c'est pas un discours moralisateur.
Ouais, non, c'est pas un discours moralisateur. Moi, à la rigueur, ceux à qui je fais la morale, c'est ceux qui sont véritablement responsables de l'épidémie, que ce soit du shit, que ce soit de l'alcool, que ce soit du tabac. Vraiment, c'est de la merde. Vraiment. On nous fait croire parfois que c'est la solution. T'es trop stressé, tiens, fume une clope, ça va aller mieux. Genre, tu vas aller te détendre, viens, on va boire une bière après le taf. C'est pas une solution. Non mais
wesh.
Sérieux, c'est
wesh.
Pas non mais j'ai l'impression que limite on nous pousse dans notre propre merde genre.
Mais c'est fait exprès.
Mais je le sais très bien que c'est fait exprès mais il y a certains de nos éditeurs qui avaient peut-être pas conscience de ça, tu vois.
Ou alors c'est peut-être des choses qu'enfin je m'adresse à vous les auditeurs que vous pourrez dire à vos amis, à vos frères, à vos petits, etc. Là, on est en train de partager des arguments, des points de vue qui doivent servir et qui doivent nous servir en tant que communauté.
Mmh. Moi, je vais vous donner un seul conseil. Si vous vous sentez mal avant d'aller fumer quoi que ce soit ou avant de boire quoi que ce soit, genre, enfermez-vous dans une salle et posez-vous les bonnes questions. Et si vous vous rendez compte que votre situation est critique ou qu'elle est inquiétante, allez voir un professionnel de santé. Et ok, il y en a certains qui vous diront ouais mais les psys c'est de la merde, ouais mais regarde mon psy, moi ça m'a la séance était merdique, etc., etc. Mais c'est toujours moins dangereux de consulter un psy que de toucher à une de ces merdes. Parce que toucher, genre, de manière occasionnelle, ok, genre... En fait, c'est l'abus qui est pas bon. Mais genre, on peut être... On peut tomber dedans plus facilement et plus rapidement que ce que l'on pense. Et genre, souvent, on se dit, oh, vas-y, je fume un joint tous les jours, mais tranquille, tu vois, c'est qu'un joint, ça va pas... Et au bout de 4-5 mois, tu te rends compte, en fait, que tu peux plus t'arrêter. Parce que... Déjà, c'est un automatisme physique. Et puis, en plus... Bah, tu t'injectes à ton corps des toxines ou je sais pas le terme exact, désolé. Et tu te rends compte en fait que ton corps ne peut plus se passer de ça. Et que quand il se passe de ça, tu te sens mal. Genre, t'es frustré. Comme quand t'as pas eu ton truc pendant. T'as pas pu cop ta paire, t'as reçu un gros
kill par mail,
tu vois. Bah, moi, excuse-moi, mais genre, je me sens mal quand ça m'arrive. Ah, mais c'est aussi pour dédramatiser le discours, ouais. Là, il est devenu trop sérieux, mais en vrai, touchez pas à ça si vous pouvez éviter. Et vous laissez pas influencer par vos potes, vraiment.
Réaxer aussi sur la santé mentale à proprement parler, et pour revenir à un des premiers trucs que t'as dit, Théophile, t'as mentionné un passage en hôpital psychiatrique. Une personne extrêmement proche de moi a fini là-haut, enfin est passé par un hôpital psychiatrique et m'a décrit des choses alarmantes en fait sur l'état de fonctionnement de ce genre d'établissement, comment on pouvait parquer un schizophrène violent avec quelqu'un de dépressif qui a fait une tentative de suicide qui est dangereux pour lui-même. Et donc en fait ça m'a grave fait réfléchir sur donc cette expérience qui s'est passée très près de moi, mon expérience personnelle de voir un psychiatre totalement affaibli par la PACES. Et là je suis pas exceptionnel dans ce cas là, il y a de nombreuses études qu'on apprend même en fac de médecine qui décrivent les effets et les bienfaits de la PACES sur ses étudiants. Bref, je vais voir un psychiatre, il a avec moi une discussion de comptoir, une discussion de bar PMU, comme si ça allait régler mon problème. Mais sauf qu'à la fin de l'histoire, il prend 75 euros. Et je lui ai dit, c'est remboursé ? Il me dit, ouais, mais pas en entier, parce que je pourrais faire à tarif remboursé, c'est quoi, c'est 33 euros qui est remboursé ? Il dit, mais si je faisais 33 euros de l'heure, autant laver des vitres. Dans quel monde vit ce mec ? Dans quel monde vit ce mec qui est médecin, qui est qualifié, qui est diplômé ? Et donc, toutes ces expériences-là m'ont fait un peu perdre foi dans le système médical français sur la partie des santé mentale, tu vois. Je critique pas le système spécialement français par rapport aux autres. Les autres, je connais pas. Je sais juste qu'aujourd'hui, je suis en France, que là, tout de suite, je parle à des gens qui sont majoritairement en France avec nous. J'ai pas foi dans ces solutions-là. Donc, du coup... Je me retourne vers autre chose. On a dit que la religion, ça suffisait pas, mais c'est une solution en base. Avec, rajoutons des événements ou des initiatives comme celles qu'on a aujourd'hui avec les podcasts de communauté, la culture, etc. C'est peut-être au final à nous de chercher dans la multiplicité des solutions qu'on a aujourd'hui ou qu'on peut créer, plutôt que de compter absolument sur le système de santé.
Genre, on parle souvent de l'ego qu'ont les créateurs en mode, tu vois. Mmh. Et je trouve que cet ego est justifié parce que, d'une part, on est un peu artiste, du coup, on crée quelque chose, du coup, tu vois. Par contre, on parle absolument pas de l'ego des médecins en France, que ce soit les gynécologues, que ce soit les psychiatres, que ce soit les psychologues. Il y a un véritable problème, il n'y a pas de remise en question. Genre, Enfin, t'as plein de potes qui sont étudiants en médecine, et ils le vivent tous super mal. Je crois qu'ils ont tous connu la dépression, tu vois. Il y en a certains qui vont finir psychiatres, alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils veulent pas voir en face et qu'ils veulent pas régler. Et genre, par le spectre de la personne qu'ils ont en face d'eux, ils vont genre leur donner des conseils. Mais soigne-toi avant de vouloir soigner quelqu'un d'autre.
Ouais, du coup, et là, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices. Moi, j'ai un parcours en termes de santé qui est violent, on va dire violent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu des problèmes de santé mentale depuis à peu près le collège. Mais en fait, quand j'étais en sortie de prépa, donc sortie de prépa, et là, ça allait vraiment pas du tout. Et en fait, peu de temps après, j'ai fait une tentative de suicide parce que j'arrivais au bout de mes forces, parce que voilà, c'était vraiment trop merdique dans mon cerveau comment ça se passait. Et j'avais aucun bon réflexe de prendre soin de moi, j'avais aucune visibilité sur ce que je pouvais faire de moi-même, J'étais vraiment absolument aveugle sur alors d'une ce qui m'arrivait et de deux comment en prendre soin, enfin, comment y remédier. Et en fait, donc je suis arrivé à l'hosto, je suis arrivé à Sainte-Anne, donc meilleur établissement psychiatrique pour donc ce que je vis, c'est-à-dire suicidaire. Et à ce moment-là, bah, on a commencé à me mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire que bah, j'ai signé de tuer, il y a un problème, et comment est-ce qu'on résout ce problème? Du coup, bah, je suis arrivé, alors c'est vraiment genre très, enfin, en termes de description, je suis arrivé, ce qu'ils m'ont, ils m'ont mis sous médoc pour faire baisser, on va dire, le range de mes émotions, c'est-à-dire ouais, qu'en fait, ouais. Parce que à côté, bien plus tard, très, et d'ailleurs très récemment en fait, on m'a diagnostiqué comme étant, on va dire, borderline, c'est-à-dire qu'en fait, mes émotions font des yo-yo pas possibles. Je peux être, alors, jamais très content, parce que sinon c'est trop facile, mais je peux être super déprimé, super dépressif, super triste. En plus, l'alcool, ça amplifie vachement ça. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, bah voilà, on va vous mettre sous ça et ça, déjà, on va vous calmer. On va vous calmer pendant, voilà. Et on va abaisser les doses.
C'est ça, parce qu'à un moment, genre, tes émotions, elles doivent être tellement fortes qu'elles prennent le pas sur la raison et que du coup, tu peux même plus...
Ouais, bien sûr.
Même plus suivre les conseils des médecins, quoi.
Et surtout, si jamais tu sais pas comment externaliser tes émotions,
ouais.
Tu finis avec mes bras. Et mes bras, ben, ils sont couverts de cicatrices.
Mmh.
Et pas que les bras, d'ailleurs. Mais bref. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'était il y a plus ou moins 2 ans, ça va pas du tout. Donc je suis à Sainte-Anne, très beau parc d'ailleurs, site touristique magnifique, 200 ans, super bâtiment, donc en plus ouais, le site est sympa quand même. Mais je me dis putain merde, je suis au fond du trou. Et en fait, et là j'ai pu consulter avec des psys, avec des psychiatres, et pas des gens qui du coup sont là pour faire leur pain, parce que c'est déjà des universitaires, enfin Sainte-Anne c'est un CHU, donc centre hospitalier universitaire, donc en fait les mecs qui sont là pour faire, et les meufs sont là pour faire avancer la recherche.
Ah bah ça,
et là, voilà, parce qu'en fait j'avais déjà eu des expériences avec une psychiatre. Et là, c'était vraiment, j'arrive, on parle 30 minutes, elle me fait une ordonnance et je me barre. Et il n'y avait aucun vraiment
ça,
suivi.
Ça devrait être illégal ça
ouais. Bah ouais, mais le truc c'est qu'en fait t'es super mal payé quand t'es dans le privé, dans le public, excusez-moi. Mm. T'es super mal payé quand t'es dans le public, du coup les gens ils vont dans le privé parce que ça paye. Mais en même temps, c'est pas le même suivi que quand t'es dans un truc hospitalier, universitaire. Du coup, et là, j'ai vraiment pu avoir des perspectives de soins en termes de santé mentale, ce qui était fulgurant parce que mon père m'a toujours dit bah voilà, tu vas mal, bah écoute, tu te lèves le matin et puis tu continues d'avancer tout pour la thune, t'y vas. Et moi, je fais ouais, mais enfin, ça suffit plus. C'est plus, peut-être, ça va quand tu tombes et que tu dégratines le genou quand t'as 8 ans, mais vrai, là, ça va plus, j'essaie de me tuer, wesh. Et ouais, et en fait. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir un vrai traitement et un vrai suivi. Toutes les 3 semaines, j'allais voir le psychiatre après ma sortie de l'hôpital, parce qu'en plus, le mec, ça fait 2 ans que je le vois en continu et tout. Et là, j'ai commencé à de nouveau avoir des perspectives d'avenir sur moi-même.
Mmh.
Et là, ben, je me suis passé il n'y a pas très longtemps, je viens d'acheter un appartement. Ouais, en fait, à partir du moment où on arrive à... Et c'est pas magique, en fait. À partir du moment où on arrive à trouver le bon combo de suivi, de soins, de proches avec qui en parler, ça va mieux. Mais, et voilà, tu peux pas fumer ta dépression, tu peux pas la boire non plus. Et c'est juste, c'est hélas super basique. Pas évidemment, une plaie, elle va bien mieux quand on en prend soin. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a ces outils-là. Déjà, nos parents, ils sont pas tous ces outils-là. Parce que nos parents, ils sont pas du tout dans la même mentalité, ils ont pas vécu les mêmes choses. Mon père, il sortait de la décennie noire, enfin, quand il est arrivé en France. Et en fait, voilà, c'était pas du tout le même contexte. C'était plus survivre dans la pauvreté, dans la misère, à l'immigration. C'est se trouver dans une société où tu te sens un peu différent quand même, et où elle est pas forcément adaptée pour toi.
Mmh.
Et même si ça touche pas, évidemment pas que les franco-maghrébins, ça touche tout le monde. Malheureusement, c'est aussi vachement vu comme une maladie blanc.
Ouais.
Et parce que nos parents, c'est des survivants, ils n'ont pas ce genre de truc. Nous, on est la génération qui arrive, on a les problèmes des générations que d'autres immigrants sont arrivés avant nos parents, et du coup, on aussi. Et voilà, je veux finir par un truc vraiment, mais c'est super con. Je vais pas vous dire, vous foutez pas en l'air, vous valez mieux que ça, c'est surtout parler, en fait. Parler aux gens qui vous comprennent, parler à vos potes. Par les darons, c'est compliqué, mais vos potes, si c'est vraiment des potes, ils vont pas vous dire tiens, prends un winge et arrête de faire chier. Parce qu'en fait, déjà vos potes, c'est pas vos dilos. Vos dilos sont pas vos potes. Mais surtout, des potes qui veulent pas vous écouter, c'est pas non plus vos potes.
C'est vrai. C'est vrai qu'un bon entourage, ça, ça a un impact sur la guérison. Genre, moi, je sais que quand je suis arrivée à Paris, c'est l'isolation sociale qui a fait aussi que je suis entrée en dépression. Et en fait, je me disais en continu que je finirais seule toute ma vie, en fait. Que à ce moment-là, j'étais pas encore consciente de mon hypersensibilité. Du coup, quand je m'exprimais sur mes sentiments et mes sensations auprès de mes proches, j'avais l'impression qu'en fait, ils arrivaient pas à me convaincre. Ils arrivaient pas à me faire croire qu'ils arrivaient à ressentir la même chose que moi, tu vois. Et déjà, ça, en fait, ça m'a encore plus conduit à l'isolation sociale et donc à la dépression. Et moi, en fait, comment... Est-ce qu'on sort vraiment de la dépression, je sais pas, mais comment est-ce que ça allait mieux? C'est parce que je me suis documentée, enfin j'ai acheté tout un tas de livres et encore aujourd'hui je me documente sur tout ce qui est psychologie, développement personnel, blablabla. Putain, ça fait grave cliché quand je dis ça comme ça. Mais en vrai, ça m'a énormément aidée parce que j'ai trouvé les bons livres, les bonnes sources. Et surtout, ce qui a fait la différence, c'est que à un moment, j'ai voulu aller mieux et je pense que... vous aurez beau avoir les meilleurs experts autour de vous, le meilleur entourage, la meilleure famille, si vous-même vous voulez pas, si vous voulez pas vous en sortir, si en fait vous êtes pas... Parce que moi aussi ça m'est arrivé pendant ma dépression, à un moment j'ai été confortée dans ma position, tu vois, de dépressive. Ça veut dire que y a une routine qui s'est installée, que même si ça allait mal, ça allait pas plus mal, genre à un moment j'allais juste mal et puis en fait c'est devenu mon attitude normale et je me suis confortée dans ma dépression. Mais faut savoir que quand vous confortez dans votre situation néfaste, vous mettez juste votre vie en stand-by et en fait toute la vie autour de vous continue à bouger, à marcher, à courir, à voler, et vous vous êtes enfermé dans votre studio de 17 mètres carrés et vous parlez avec vous-même, vous blâmez. Et en fait, ça fait pas avancer les choses. Du coup, vu que j'ai essayé plein de spécialistes de santé et que ça a pas fonctionné, que j'avais pas forcément les moyens pour m'offrir plus de services, j'ai commencé à me documenter et, petit à petit, mais juste avec des trucs banals, hein, pas des trucs de... pas des médicaments, pas de produits, rien. Juste parfois avec de la méditation, parfois avec des exercices de respiration dans les transports, parfois juste apprendre à s'exprimer, parce que quand on vous dit ça va et que vous répondez oui et toi, alors que en face de toi t'as ta meilleure amie,
justement avec tout le quand tu réponds oui avec au ça va de ta meilleure amie et que tu vas pas plus loin, genre moi j'ai été dans cette situation là et genre c'est pas que je faisais pas confiance à mes meilleurs amis ou quoi, c'est juste que j'avais vraiment du mal, enfin je savais pas comment m'exprimer et juste le oui était beaucoup plus facile. Et justement là je suis vraiment dans cette optique là de plus m'exprimer, je tente des trucs et je lis des livres de développement personnel aussi. C'est grave cliché de ouf,
mais ça aide,
c'est cliché mais ça aide quand même. Et justement c'est à cause de Sharon, du ça va qui a un peu plus résonné, tu vois, le ça va différent de Sharon qui m'a fait percuter. Et ça date d'il y a genre un ou deux mois. Hein. J'ai 20 ans. Du coup, ma dépression, elle date de quand j'avais 12-13 ans. Et jusque-là, bon, j'ai fait des yo-yo, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt. Du coup, ouais, je suis vraiment au tout début de la prise de conscience. Du coup, je teste des trucs et on verra comment ça...
T'as eu des clics.
Ouais. Voilà.
Et de toute façon, Amel et Kauter, vous êtes pas seuls.
Ouais.
Ah oui, non,
quand même. Les auditeurs sont pas seuls non plus. Ah, nos DM sont ouverts.
Du coup, on va faire une pause. On va écouter The Pressure de Jhené Aiko de l'album Sold Out qui est sorti en 2014. 2014, c'était un peu une période où j'avais beaucoup de moments de déprime. En tout cas, mon fond, c'était un peu à ce moment-là, on va dire. Et je sais que moi, une des choses qui m'a beaucoup soignée, c'était la musique. Et notamment Jhené Aiko jusqu'à maintenant. Donc ça me tenait à cœur de la passer dans la taille. On écoute The Pressure de Jhené Aiko sur la taille.
out of my control. The way you feel is not my problem. I don't want to see you go, but I don't have time to solve this. And you don't have the right. After all you put me through, I'm starting to realize. To give, I have none. I cannot live with the pressure. The pressure, you know, I feel the pressure.
Les recommandations. Alors moi je vais recommander, je vais recommander un article écrit par Schkid il y a 2 ans, qui est sur Yard du coup, qui s'appelle La santé mentale, succès dans le rap américain, silence dans le rap français. Et en fait c'est un article déjà qui a cartonné, enfin il me semble qu'il a gagné un prix et tout avec, et il fait vraiment le parallèle en fait entre tous ces nouveaux rappeurs aux États-Unis comme Lil Uzi Vert par exemple, tu vois, qui va clairement, enfin qui va faire un banger en chantant Push Me to the Edge, All My Friends Are Dead, tu vois. Et où en France on a encore beaucoup beaucoup de mal avec ces questions là même si on commence à avoir genre des artistes qui parlent de ça dans les structures et dans ce qui se passe en interne, c'est encore très 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 mal vu et c'est hyper tabou. Et enfin je trouve que ça fait aussi écho à beaucoup de choses qui se passent dans nos communautés. Voilà, enfin moi je sais que par exemple PNL, pour moi pourquoi ils ont explosé, c'est parce que c'est peut-être les premiers artistes qui vont dire nous on bicravait, il y avait des cafards dehors, on était tristes, on était dépressifs et voilà, c'était notre vie, tu vois, et qui vont pas faire de mal à ou quoi. Et enfin bref, là je veux pas du tout résumer l'article à tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de balancer des idées, mais vraiment allez lire cet article, c'est hyper important par rapport à la santé mentale en ce qui concerne l'art, enfin le milieu de l'art et les artistes. Mais
en
ça
particulier
va vraiment...
les rappeurs, on parle toujours de masculinité toxique, etc., etc. Et là, vraiment, cet article, en fait, il décompose tout et il vous fait voir la réalité. C'est vraiment... Enfin, après cet article, en général, vous avez un déclic sur l'industrie du rap français. Enfin,
voilà.
Pour ma part.
Donc, à lire, absolument.
En rapport avec ce que tu disais, ça m'a fait penser à la chanson de Gizmo, Attendez-moi, et sur la tristesse qu'elle symbolisait et le grand coup de pied que ça a été dans le rap français. C'est un peu aussi pour ça, pardon, que ma recommandation, c'est du coup l'émission Thérapie, et en particulier les 2 épisodes sur Gizmo et sur Al Capote, où on a 2 fonctionnements et 2 attitudes par rapport au questionnement sur les sentiments qui sont complètement différentes. On a Gizmo qui lutte un peu face aux questions de son interlocuteur, mais qui au final s'ouvre légèrement et au final arrive à discuter comme il le fait dans ses interviews, même s'il y a un peu ce fond d'alcool, etc., qui le suit depuis longtemps. Et il y a Al Capote qui est un peu dans la situation que beaucoup de gens vivent, qui est une espèce de déni complet
c'était Al Capote le personnage, c'était pas
c'est
la
ça,
personne
c'est ça, parce que, mais au final c'est terriblement symptomatique, parce qu'aujourd'hui on est trop à être enfermé dans notre personnage qui est moins extrême que celui d'Al Capote, mais au final ça se voit beaucoup moins. On est tous enfermés, pour les gens qui sont dans cette situation, dans une espèce de personnage où on est devenu des pros de l'esquive, des pros du camouflage. Et donc bref, écoutez, regardez ces deux épisodes, réfléchissez et essayez de vous identifier et de questionner vos fonctionnements.
Est-ce que je pourrais ajouter un épisode? C'est celui d'Isha où il parle d'hypersensibilité. Ouais. Et je trouve que pour tous ceux qui baignent dans le milieu artistique et de la mode, ça peut vous aider à comprendre plusieurs choses sur vous-même. Et je passe à ma recommandation. Ma recommandation, c'est un livre que j'ai lu et qui m'a énormément aidée. Ça s'appelle Les maladies psychologiques. Ça a été écrit par le docteur Aït Mohamed Mouloud. Et je mettrai ça en barre d'infos. Et c'est des éditions Taouba. Et en fait, ce livre est concis et complet. Il définit d'abord tout un tas de maladies, donc la dépression, les troubles anxieux, il vous définit les TOC, il vous parle de la schizophrénie, il vous parle aussi de la bipolarité, et justement de l'impact. Enfin, genre, il dit, je crois, dans ce livre, qu'il a rencontré un bon nombre de jeunes patients, et je souligne le jeune patient qui souffre de schizophrénie, de bipolarité après avoir consommé du shit. Oui, je retourne à ce sujet. Mais ce livre m'a énormément aidée. Donc, il vous permet de comprendre ce qu'est toutes ces pathologies. Il vous donne un catalogue, en fait, de définitions. Puis, il fait de la prévention. Et enfin, il vous donne quelques conseils pour guérir. Après, ça ne veut pas dire que vous guérirez forcément. Mais... après, c'est sur vous, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. Il coûte que 8 euros, donc voilà.
Amel.
Alors, moi, ma recommandation, elle est beaucoup moins sérieuse que celle d'avant. Mais en gros, durant ma dépression, ce qui m'a le plus aidé, moi, c'était les mangas. Mais c'est pour ça que j'aime autant ce médium. Mais celui qui m'a... Enfin, le manga qui m'a le plus aidé, c'était Naruto. C'était un peu ma petite... bouffée d'air,
ouais, c'est un exutoire.
Exactement, ouais. Je faisais que ça toute la journée. Et peut-être c'est aussi un problème, ça, d'ailleurs. Mais bref, je vous recommande Naruto ou un manga ou juste un truc qui vous permet de respirer à côté. Un truc.
Ça existe encore aujourd'hui. En
de
fait,
quoi
Naruto, ce manga en particulier aide encore aujourd'hui.
Oui,
je prends l'exemple de Trippie Redd. On parle de l'émotivité dans le rap US qui est beaucoup plus assumé. Trippie Redd, qui se porte un peu en icône du emo rap, du rap très émotif, etc., a une quantité de références, surtout au manga Naruto.
Et donc ouais, je pense que ça a aidé vraiment beaucoup de monde. Et du coup, voilà, je vous le recommande, Naruto. Plutôt Naruto petit. Shippuden, un peu moins quand même.
Et enfin, pour allier pop culture et santé mentale, moi, je vous recommandais la série Watchmen sur Netflix, qui donc se passe dans l'univers uchronique de Watchmen. Mais en fait, on suit des protagonistes qui sont notamment issus de la guerre du Vietnam, qui est une guerre que les Américains ont gagnée dans cet univers-là. Et donc, il y a pas mal d'immigrants vietnamiens aux US, et aussi une protagoniste noire dont la famille a été massacrée durant le massacre du Black Wall Street, quartier de Tulsa en Oklahoma. Au début du XXe siècle par le Ku Klux Klan et l'armée américaine. Et en fait, il y a donc ces protagonistes-là dont le passé, enfin pour qui le passé est très proche d'eux. Et en fait, et du coup, ça a un impact sur leur santé mentale, ça a un impact sur leurs sentiments et vraiment sur leur psyché. C'est vraiment des passés extrêmement violents qui les poursuivent et qui sont attachés à eux et donc qui doivent gérer. Donc voilà, je vous recommande vraiment, petit merci au Chip, et c'est au travers d'eux que j'ai eu cette approche de cette série et qui m'a poussé à la regarder.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Kauter, Sidox, Zied, Amel, Nesrine et Théophile. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver en barre d'infos. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud en tapant La Teille, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et Twitter, @LATEILLEPODCAST. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.